Alors moi c'est Nicolas, je suis enseignant et je suis membre de l'Atelier d'Histoire Critique, qui est une association lilloise qui existe depuis bientôt 4 ans. On est une association qui a pour objectif de proposer des espaces de discussion et de réflexion autour de problématiques historiques, mais qui sont en prise directe avec l'actualité des luttes sociales et des luttes politiques. Donc on investit par exemple beaucoup la question des luttes décoloniales, qu'on va venir éclairer donc notamment par des conférences, pendant lesquelles on invite des historiens ou des militants associatifs ou des militants politiques qui viennent proposer une réflexion autour de leurs travaux. Et généralement, dans ce qu'on organise, il y a toujours un débat qui suit et qui permet de confronter un peu l'avis du public. Donc l'Atelier d'Histoire Critique, c'est pas un groupe politique, c'est une organisation d'amis d'abord, qui ont décidé de mettre l'histoire au service des luttes, en fait, que ce soit les luttes de classe, les luttes féministes ou les luttes décoloniales.
Alors moi je m'appelle Joui, je suis militante antiraciste, décoloniale et panasia féministe. Et donc je fais partie de l'atelier d'histoire critique. Par contre je fais aussi partie d'un autre collectif qui s'appelle Collectif Décolonial Déterminé, qui est un collectif assez récent qui milite en mixité choisie entre personnes racisées, puisqu'on part du constat que nous avons besoin, en tant que personnes racisées qui subissons des racismes spécifiques en tant qu'asiatiques, en tant que noirs, musulmans, arabes, etc., de se retrouver entre nous pour ne serait-ce qu'échanger sur nos expériences. Ça nous fait du bien, puisqu'on n'a pas l'habitude dans les espaces publics, dans les médias, que ce soit aussi les espaces culturels, artistiques, etc. On est toujours en minorité, du coup ça nous fait du bien aussi de se retrouver entre nous, ne serait-ce que pour parler de nos vécus et puis ensuite les porter sur la voie publique et porter aussi des revendications en termes d'antiracisme politique et en termes aussi de décolonisation, que ce soit des esprits, enfin de toutes les sphères de pouvoir, que ce soit des pouvoirs institutionnels, culturels, artistiques, médiatiques, etc.
Je m'appelle Olivier et je suis également donc militant antiraciste et décolonial, membre du collectif Décolonial Déterminé et jeune membre de l'association Atelier d'Histoire Critique.
Alors j'aimerais commencer par l'actualité, avec la mort de George Floyd, qui a été une étincelle, qui a créé un mouvement international de contestation des violences policières, du racisme d'État. En France, ce racisme d'État, il a une histoire, qui est celle aussi de la colonisation. Et cette histoire, elle est célébrée dans l'espace public, par des statues, des noms de rues, des établissements, notamment scolaires. Donc par extension, le mouvement actuel contre les violences policières devient aussi un mouvement de déboulonnage de symboles coloniaux. Comment de George Floyd on en arrive à Feder Balil?
Ce qui s'est passé actuellement avec l'affaire George Floyd, c'est la conjonction en fait d'expériences qui existaient déjà depuis très longtemps, déjà aux États-Unis, quand on parle de l'affaire Rodney King par exemple, ou concomitamment dans le même temps aussi avec ce qui s'est passé avec l'affaire George Floyd, l'affaire de Central Park avec Amy Cooper, donc qui appelle le 911 pour dire « Ah, il y a un Afro-Américain qui est en train de m'agresser », on se rend vraiment compte qu'il y a ce problème et cette persistance, la persistance d'un racisme en fait qui est hérité à la fois de toute une période coloniale qui se prolonge en fait dans un continuum et qui se vérifie aussi au présent. Donc comment est-ce qu'on passe de George Floyd à Feder Balil? C'est vraiment alors déjà le fait que ça a été international, ça pousse aussi des pays comme la France qui a un gros déni et un impensé sur cette question-là à se questionner aussi dans son rapport aux minorités. Et ça fait réémerger en fait à la fois la nécessité pour ceux qui le vivent dans leur corps, dans leur chair, qu'ils le vivent au quotidien, genre les contrôles de police au faciès, les violences policières, les 20 personnes dont on parle peu mais qui sont mortes en fait aussi pendant le confinement du fait de violences policières. À un moment, on arrive à ce stade où on se dit ce n'est plus possible de ne pas le penser et de ne pas prendre en compte en fait vraiment la place qui revient de droit finalement par rapport à ça aux personnes non blanches en fait dans la société française. Voilà pour moi où se trouve le lien.
Moi je suis d'accord avec ce qui a été dit. Moi je trouve qu'on y est, si on regarde la temporalité des manifestations, ne serait-ce qu'aux États-Unis, on se rend compte que les manifestants ils sont arrivés assez naturellement finalement et qu'en effet on a besoin, quand on cherche, quand on est en quête de justice sociale et de réparation pour un préjudice subi, par toute une communauté, évidemment on a besoin de trouver l'origine de ce préjudice et c'est tout naturellement que les gens se tournent vers l'histoire esclavagiste, coloniale et génocidaire des États-Unis. Et c'est comme ça qu'on en arrive à se rendre compte que le péché originel, c'est peut-être Christophe Colomb finalement, et ce qui a suivi l'arrivée des Européens en Amérique du Nord. Après, c'est logiquement aussi que ces réflexions traversent l'Atlantique, puisque c'est quand même un sport national, même de la part des politiciens français, hein, de voir le racisme aux États-Unis, mais de ne pas le voir quand il est sous notre nez, en fait. Hein. C'est toujours la même histoire, c'est la question de la paille et de la poutre. Hein. On voit la paille dans l'œil du voisin, mais on ne voit pas la poutre dans la sienne. Le déni sur la question coloniale, sur la question du privilège blanc, et c'est quand même une spécificité française. Alors, on en reviendra après, parce que dans d'autres pays, le débat, il est beaucoup plus serein. En Belgique, c'est certaines municipalités qui déboulonnent Léopold II. En Angleterre, c'est des municipalités elles-mêmes qui entament un travail de re-questionnement du nom des rues. Voilà. En France, on a un pouvoir exécutif qui bombe le torse et qui dit « Jamais de la vie, nous ne renierons notre histoire ». Et en fait, pour moi, hein, ce déni, il vient de ce mythe de la République une et indivisible, universelle. Sauf qu'en fait, ces déclarations de principe, elles sont totalement désincarnées. Quand on parle d'une République universelle, généralement, les prétentions à l'universel sont généralement incarnées dans la bouche de personnages blancs, de politiciens blancs, hommes, privilégiés à tout point de vue parce qu'ils viennent de la bonne société bourgeoise. Et c'est eux qui font des tirades à qui mieux sur la France universelle, etc. Et en fait, il y a du retard là-dessus. Collectivement, en France, à cause de ces discours désincarnés, à cause de cet universel désincarné, la France n'arrive pas à se voir comme une société multiraciale, par exemple, et n'arrive pas du coup à faire place à l'histoire de ces minorités. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une histoire qui écrase celle des autres, c'est l'histoire de nos ancêtres les Gaulois, et en fait, on écrase la mémoire des minorités en France avec ce type de discours.
C'est cette vision aussi universaliste qui fait que les personnes qui demandent le déboulonnage de statues ou le fait de renommer des rues, par exemple de Colbert, de Lyoté, sont perçues comme des séparatistes. En fait, il y a aussi ce vocabulaire-là qui revient beaucoup. Et alors que nous, on demande simplement d'avoir une place, que ces personnages-là soient remis à leur place dans l'histoire, en fait, avec la vérité sur ce qu'ils ont commis, en fait. Et aussi, pour revenir à la question donc de base, le continuum. Depuis la mort de George Floyd, le mouvement Black Lives Matter, ce qui a pris aussi en France, c'est aussi, je pense, ce n'est pas anodin, donc c'est l'histoire en action pour moi, qui se situe géographiquement aux trois points du triangle qui est celui de la traite transatlantique esclavagiste, puisqu'il y a aussi des mouvements qui ont lieu actuellement au Sénégal, notamment. Avec le collectif Fédère doit tomber, on est en lien avec un collectif sénégalais qui demande aussi le déboulonnage de Federbe et qui demande aussi le fait qu'on renomme le pont qui rend hommage à Federbe à Dakar. Il y a aussi cette idée en France qu'on est dans une société post-coloniale, c'est-à-dire que la colonisation s'est terminée au moment des guerres de décolonisation, donc dans les années 60. Et du coup, les guerres de décolonisation, ça y est, il n'y a plus de problème actuellement de colonisation. Sauf que là, on parle plutôt d'un concept de colonialité aussi, c'est-à-dire le fait qu'il y ait ce continuum historique qui impacte encore aujourd'hui le vécu des personnes qui sont racisées et qui vivent encore donc ce racisme qui a donc des origines historiques et qui a des effets dans la vie de tous les jours, qui a des effets au niveau des discriminations. Et tout ça, c'est mis sous le tapis quand on parle d'universalisme, en fait. On n'est pas des séparatistes, on est là au contraire pour rétablir une réalité historique.
Je balançais le nom de Federbe peut-être un peu rapidement. Donc, faut aussi rappeler que c'est l'un des symboles coloniaux, qui est une figure lilloise. Je pense que l'objectif de l'atelier d'histoire critique, c'est aussi qu'on rétablisse la réalité historique. J'aimerais qu'on commence, avant de revenir sur les enjeux politiques, par s'attarder sur la vie de ce général, en fait.
Alors, Federbe, c'est l'incarnation locale de l'impérialisme français. Et c'est tout logiquement que quand on habite Lille, on se tourne vers cette statue qui trône en plein centre-ville et à côté de laquelle on a l'habitude de passer sans trop s'interroger. Donc, évidemment, nos collectifs, pour plus de poids, évidemment, on part du principe qu'il faut lutter contre ce qu'on a sous nos yeux. Donc là, immédiatement à Lille. Donc Federbe, pour nous, c'est une très très bonne entrée pour dénoncer le colonialisme français. Le général Federbe, il est né à Lille. Il est né le 3 juin 1818. L'essentiel de sa carrière, c'est d'avoir massacré et d'avoir fait place nette pour les intérêts coloniaux de la France en Afrique. et qu'en fait, ce n'était pas une petite part d'ombre dans la carrière d'un militaire qui aurait été brillant, si tant est qu'un militaire puisse être brillant. C'est vraiment le pur produit de l'impérialisme français. Alors Federbe, il commence par exemple dans les années 40, aux côtés de Bugeaud et de Gallieni, en Algérie. C'est-à-dire qu'en fait, il va apprendre les techniques que l'armée française nomme de pacification, avec des énormes guillemets, mais les techniques de pacification, il faut le dire, hein, c'est par exemple des enfumades. C'est-à-dire qu'en Algérie, on prend les populations locales, il y a des lettres de lieutenants, je pense notamment aux écrits du général de Saint-Arnaud, où en fait on prend les populations locales, on les enferme dans des cavernes et on allume un feu à l'entrée de la caverne et on les tue par asphyxie. C'est ce genre de pratique que Federbe va apprendre en Algérie. En Algérie, par exemple aussi, on a emmuré des gens vivants. Il va rester finalement assez peu de temps en Algérie, mais dès les années 50, il arrive au Sénégal. Et là, c'est vraiment en tant que gouverneur général du Sénégal qui va se faire un nom. Alors, il va pratiquer la politique de la terre brûlée, c'est-à-dire qu'il faut choquer les populations civiles pour qu'elles se soumettent le plus rapidement possible. Donc on rase les villages, on rase les champs, on provoque des famines artificielles pour faire plier les populations locales. C'est intéressant parce que ce qu'on enseigne, parce qu'il se trouve, comme j'ai dit, je suis enseignant, hein, mais on enseigne à nos élèves le concept de guerre totale quand on parle de la Seconde Guerre mondiale, et même de la Première. Mais les guerres totales, elles commencent déjà au 19e siècle dans les colonies. Parce qu'en fait, je rappelle la définition d'une guerre totale, c'est une guerre qui mobilise tous les compartiments de la société au service de l'effort de guerre. Et c'est surtout des guerres dans lesquelles il y a plus de victimes civiles que de victimes militaires. Et donc en fait, ce concept de guerre totale, avant d'arriver en Europe, il est déjà pratiqué en fait dans les colonies, en fait, où on a une armée qui est sans pitié. Federbe, il va être notamment à l'origine du fameux corps des tirailleurs sénégalais, c'est-à-dire qu'il a bien compris que les colonies, c'est aussi un réservoir d'humains, de bras, et qui pourront venir se battre pour la France dans les tranchées plus tard. Donc c'est lui qui crée le corps des tirailleurs sénégalais. On rappelle aussi que la dénomination de sénégalais, évidemment, ne s'applique pas que aux personnes originaires du Sénégal, hein, puisque des combattants noirs, en général, vont pouvoir incorporer ce groupe sans être forcément d'origine sénégalaise. L'une des raisons pour lesquelles Federbe crée ce bataillon, c'est parce qu'il est persuadé que alors il faut mettre des guillemets, et c'est là qu'on touche en fait à la négrophobie de ce personnage, c'est qu'il crée ce bataillon parce que pour lui, donc, il va créer une image essentialisée du noir qui est fait pour le combat, qui est fait pour mourir, et des images qui nous polluent encore aujourd'hui, et qui font énormément de mal, et qui peuvent expliquer, juste par rapport à ce qu'on a dit avant, hein, sur les violences policières, qui peuvent expliquer que des flics sont persuadés que pour arrêter une personne noire, il faut être à 5 ou 6 sur lui. Et là, on en revient à Adama Traoré, par exemple, où on est persuadé que les noirs sont forcément des corps athlétiques, résistants, et que du coup, cela justifie une répression supplémentaire sur leur corps. Voilà, on est dans un rappel du continuum colonial. Donc Federbe, par exemple, quand il crée le corps des tirailleurs sénégalais, lui, il va théoriser l'infériorité des Noirs en disant « L'infériorité des Noirs provient sans doute du volume relativement faible de leur cerveau ». C'est ce qu'il écrit en 1879. Donc là, on a l'essence même de ce que c'est que le colonialisme, le déni de l'autre, la destruction de l'autre, physique et psychique, l'exploitation coloniale des terres, mais aussi des corps, et le racisme, et la négrophobie. Donc voilà, ce personnage-là, c'est pas un détail de l'histoire coloniale française, il est le produit de l'histoire coloniale française, au même titre qu'un Lyoté originaire de Toulouse, ou qu'un Gallieni qu'on célèbre encore à Paris notamment, ou à Bagnolet. Voilà, donc il était pour nous évident que ce serait cette entrée-là qui serait privilégiée pour les luttes antiracistes à Lille.
J'ajouterais aussi que par rapport à ce que disait Nicolas aussi sur la notion par exemple de tirailleurs sénégalais, je tenais juste à... C'est des personnes qui ont pu avoir aussi des hauts grades dans l'armée, donc pas forcément des tirailleurs, on a aussi des commandants, des capitaines, voilà. Et c'est pour ça que moi je préfère parler aussi de soldats en fait à la fois africains, ultramarins et également asiatiques. Parce que dans le même temps où se construisait en fait cet imaginaire aussi autour du noir, à la fois supérieur physiquement, mais inférieur intellectuellement, ça a été la même chose aussi qui s'est faite en Asie au moment de la colonisation de la zone du Tonkin, par exemple, et également au niveau de l'Afrique du Nord. Voilà. Il y avait aussi ce présupposé, en fait, la construction en fait, de cet imaginaire, à la fois avec un présupposé de supériorité morale et intellectuelle. Il me manque un peu de citation de Federbe, mais c'est vraiment en affirmant sa négrophobie. Dans le même temps, il est aussi soutenu par un système de scientifiques, d'écrivains. Voilà, Paul Broca, par exemple, qui avait fait donc cette analyse donc de crânes, hein, de corps qu'ils avaient tués, et puis ils les remplissaient de plomb. Et dans le même temps, j'aimerais aussi signaler qu'en fait, dans le même temps, il y avait Joseph Anténor Firmin qui venait d'Haïti, qui est arrivé à la Société d'anthropologie de Paris et qui a démonté aussi ça avec le traité sur l'égalité des races, en fait. Donc dans le même temps aussi, pour un peu contrebalancer ça, c'est vraiment rappeler que voilà, les tireurs sénégalais, soldats d'Afrique ultramarins asiatiques, et puis également ceux qui ont lutté aussi contre, dans le même temps, et qu'on a tendance à invisibiliser, donc Joseph Anténor Firmin, par exemple.
Pour rappeler ce contexte intellectuel de hiérarchisation raciale justifiée par un discours scientifique, on est aussi à la fin du 19e siècle dans les théories de Gobineau, hein, sur la hiérarchisation des races, hein, où on va mettre le singe en bas, l'homme blanc en haut, et entre deux les personnes qui sont colonisées, racisées et soumises à l'impérialisme occidental. Donc il y a tout ce contexte intellectuel, et tu as raison de souligner qu'il y a des résistances aussi à ce moment-là, que c'était pas, ça coulait pas de soi, en fait, de cette hiérarchisation raciale, qu'elle a été contestée dès le début. Et si on veut, en effet, si on veut être un peu plus fin sur cette histoire de comment on incorpore des élites africaines, asiatiques, ultramarines dans le système colonial français, on peut aussi revenir à Federbe, parce que Federbe, il est le créateur de ce qu'on a appelé l'école des otages. Et en fait, son idée à lui, c'était que quand il attaquait des villages, il fallait capturer les chefs locaux et les assimiler, en fait, les acculturer pour en faire des relais de l'impérialisme français, des relais symboliques, culturels, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on allait en faire des lieutenants de l'impérialisme français. Donc, l'école des otages, on prend des chefs ou des fils de chefs de tribus, on les met dans des écoles, on leur dit qu'ils sont meilleurs que les autres, et on en fait des relais du poison colonialiste. Et ça, c'est Federbe qui a créé ça au Sénégal.
Il y a beaucoup d'arguments pour rétablir la vérité historique du personnage qu'était Federbe. Malgré tout, les critiques principales à votre encontre seront que vous auriez tendance à réécrire l'histoire, de juger le passé à l'aune de valeurs morales présentes. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça ?
Déjà, la question de qui est-ce qu'on célèbre collectivement dans l'espace public n'est pas une question d'histoire, mais bel et bien une question de mémoire, et c'est une question éminemment politique, puisque les personnes que l'on représente sous forme de statues, évidemment, il y a une forme de glorification, au sens propre du terme, on les met sur un piédestal. Ça paraît évident qu'il doit y avoir un débat démocratique, l'espace public appartenant à tout le monde, il doit y avoir un débat démocratique sur qui est-ce qu'on reconnaît comme étant des figures dignes d'être honorées dans l'espace public. Ce n'a pas forcément à être des figures individuel, hein, ça pourrait être nos héros peuvent être aussi des figures collectives, hein, mais bon, ça c'est une autre réflexion. Nous, en fait, au contraire, nous on réclame à ce qu'il y ait de l'histoire qui soit faite. Juste pour la petite histoire, les dates de la présence de Federbe au Sénégal sur le piédestal de la statue qui est place Richebey sont fausses. Donc qu'on nous dise pas qu'on est en train de réécrire l'histoire, parce que déjà à la base elle a mal été écrite, en fait, par ceux qui ont mis cette statue à cet endroit. Nous, justement, ce qu'on voudrait, c'est que les politiques s'emparent de cette question, les Lillois, là, que les politiques Lillois s'en parle de cette question, qu'on mette Federbe dans un musée. Un musée, c'est un endroit où on aura la sérénité nécessaire pour faire de l'histoire, pour réétablir l'ensemble de l'intégralité de ses crimes, sans avoir à subir sa stature imposante qui s'impose à nous, hein, parce qu'elle est là aussi pour nous impressionner, cette statue, sans que des descendants d'Algériens et de Sénégalais qui connaissent un tant soit peu leur histoire n'aient à subir l'humiliation que de passer à côté, qu'ils soient aujourd'hui français ou pas d'ailleurs. Parce que cette présence d'une statue, c'est la célébration des crimes coloniaux, c'est la célébration de l'impérialisme français, et donc ça nous fait violence, oui, ça nous fait violence, en fait, et le débat il doit avoir lieu. Juste une précision, l'idée de mettre la statue dans un musée, c'est aussi que une fois que Federbe sera dans un musée, ceux qui verront cette statue, c'est ceux qui auront choisi de la voir. Quand on va dans un musée, on paye un billet d'entrée, on fait un acte volontaire d'aller voir cet objet là on ne nous l'impose plus. Et donc là, il y a une énorme différence entre cette question de la mémoire, encore une fois, qui renvoie à la question de qui est-ce qu'on honore, et la question d'avoir des espaces dédiés à faire une histoire exhaustive des crimes qui ont été mis sous le tapis de ce sinistre personnage.
En tant que premier concerné aussi, je pense qu'il est essentiel Et parfois, ce qui nous est opposé aussi, c'est le manque de rationalité. Voilà, on dit qu'on est dans l'émotion, qu'on est manichéen. Aujourd'hui, la génération qui s'attaque à ça, sait faire la différence, comme on disait, entre l'histoire et la mémoire. J'ai un peu lu Achille Mbembe. Il y a une Achille Mbembe qui a cette notion en fait qui m'a parlé et que j'essaie actuellement de développer, celle d'un récit partagé. Aujourd'hui, il ne peut plus y avoir en fait qu'un seul son de cloche qui vienne des défenseurs en fait de cette histoire qui est tronquée, euphémisée, avec parfois de grosses inexactitudes et de mensonges parfois plus grands les uns que les autres. Et cette émotion-là aussi, il faut pouvoir aussi l'intégrer, comprendre aussi que la façon de l'exprimer est légitime. Et que même si ça vient faire violence aux oppresseurs, d'ailleurs, les oppresseurs ont tendance à surtout, et c'est eux qui ont des boulevards médiatiques pour pouvoir parler de la violence que ça leur fait à eux, en fait, et qui fait qu'ils ne reviendront pas en fait remettre ce privilège en fait avec lequel ils sont nés, qu'ils ne viendront pas remettre en question ce qu'ils ont comme avantage dès le départ à la naissance. Et nous, vraiment, ce qu'on souhaite aussi, c'est à un moment que cette émotion, voilà, soit prise en compte, qu'il y ait une empathie aussi structurelle qui se développe, en disant c'est seulement à cette condition-là qu'à un moment on peut aussi retrouver une sérénité. Qu'on peut retrouver en fait une fierté à faire communauté, et non pas parce que certains en fait seront confrontés dans leur place de dominant et d'autres dans leur place de dominé. Et cet argument donc du négationnisme ou du révisionnisme historique ne peut plus tenir, parce que oui, ça nous fait insulte, oui, ça nous fait violence, et surtout que nous le vivons encore une fois au quotidien. On vient nous rappeler que finalement, dans cette identité ethno-nationale très eurocentrée, occidentalo-centrée et blanche, nous n'avons pas notre place. Et en fait, cette place, de toute façon, même si c'est actuellement très difficile, on a décidé, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est dans cette démarche d'activisme, on a décidé de la prendre de toute façon, et il va falloir composer avec, voilà.
Moi, je voulais juste préciser quand même, il faudra que tu le mettes dans le truc final, que parmi les trois personnes qui parlent, je suis la seule personne blanche, et que du coup, évidemment, mon positionnement et ma sensibilité sur la question ne peut pas être la même que celle de mes deux camarades. Néanmoins, juste pour dire qu'en fait, il n'y a rien qui est... Enfin, tout ce qui a été fait peut être défait. Et on a, en l'occurrence, sur la question de la présence de Fédère dans le centre de Lille, on a des précédents qui plaident en notre faveur. On a par exemple une statue à Lille de Napoléon Bonaparte, qui est quand même la seule figure historique du monde entier à avoir rétabli l'esclavage, qui trônait jusqu'en 1976 dans la cour de la vieille bourse de Lille et qui est aujourd'hui au musée des Beaux-Arts. Autrement dit, quand on veut, on peut. Il y a d'autres précédents aussi, avec une statue du général Négrier qui a aussi été déplacée à Lille. Évidemment, la question, hein, c'est est-ce que en 44 on a laissé les rues du maréchal Pétain? Est-ce qu'en 44 on a laissé les monuments que nous avaient légués les Allemands, les nazis? Non. Et pourtant, la question de l'occupation pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était une occupation, c'est pas une colonisation. Donc on a su le faire à d'autres moments de l'histoire. Pourquoi tout d'un coup on ne saurait plus le faire en fait? Moi j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont un rapport problématique à ces objets, comme si c'était des fétiches. Alors on peut reprendre la phrase d'Edouard Philippe qui nous parle d'épuration mémorielle, mais c'est d'une violence. Ces personnes en fait sont en train de vider, ils sont en train de jouer avec le sens des mots. Et quand on vide le sens des mots, on prend énormément de risques par rapport à l'état du débat démocratique. Parce qu'en fait, si les mots n'ont plus de sens, on n'a plus de mots pour se comprendre, on n'a plus de mots pour argumenter, et on ne fait que se lancer des anathèmes à la bouche. Mais tu as raison, hein. Il y a des gens qui s'échinent à nous construire comme des fascistes, en fait, comme des gens qui voudraient qu'ils ne respectent rien. Alors qu'en fait, l'épuration, c'est quand même la liquidation d'êtres humains, en fait. Et c'est précisément ce qu'on reproche à Fédère, en fait. Et nous, parce qu'on va faire tomber un objet fait avec du plomb, on nous jette ces anathèmes à la tête. C'est quand même incroyable. Et en fait, c'est des coups de force symboliques. En fait, c'est des gens qui veulent clore le débat parce qu'ils savent qu'on touche une corde sensible, en fait. Parce que, autant sur la question de l'esclavage, la France a pu reconnaître que l'esclavage est un crime contre l'humanité en 2001. Parce que les Républicains, ils ont beau jeu à chaque fois de nous rappeler que c'est la République qui a aboli l'esclavage deux fois, en 1794 et en 1848. Mais avec la question coloniale, c'est l'inverse. C'est la Troisième République qui a colonisé en Indochine, notamment. C'est la Troisième République qui a créé le code de l'indigénat en Algérie et qui l'a mis en place et qui les a généralisés à toutes ces colonies de peuplement. C'est la Troisième République qui a colonisé la Kanaky et c'est la République d'aujourd'hui qui est en train de faire obstruction au référendum d'autodétermination des Kanaks. Et là, on parle de 2020, on parle d'un référendum qui doit arriver en octobre. Donc toute la question coloniale elle induit une remise en cause de la mythologie républicaine tellement profonde qu'ils sont obligés d'utiliser des arguments d'autorité pour avoir l'impression de plier le débat.
Mais alors vous, en tant qu'atelier d'histoire critique, vous participez à ce collectif et à cette campagne « Federbe doit tomber », qui est une campagne qui touche à la mémoire et non plus à l'histoire. Est-ce que vous alimenteriez pas justement cette confusion entre l'histoire et la mémoire ?
Non, moi je pense pas. Je pense qu'au contraire, c'est nous qui clarifions les enjeux. On a des intellectuels comme Pascal Blanchard, hein, qui est un universitaire qui s'est construit une carrière sur les questions coloniales et qui incarne un peu la blanche molle et réformiste sur les questions coloniales, qui nous explique, parce qu'il est beaucoup interviewé sur les médias comme TF1 en ce moment, qui nous explique qu'il ne pourrait plus faire son travail si on lui retirait les statuts des places publiques. Nous, on est là pour rappeler que absolument pas, au contraire. Les endroits où on fait de l'histoire, c'est dans les manuels scolaires, c'est dans les musées, mais c'est pas, on ne fait pas d'histoire avec une statue en place publique. Et tous ceux qui veulent mettre une petite plaque au pied de la statue, c'est pareil. Ils ne se rendent pas compte qu'en fait, les petites plaques, il n'y a que quelques curieux qui les lisent, et que la statue continuera à écraser les passants tant qu'elle restera là. Donc non, moi je pense que c'est nous. Enfin, je pense que les arguments historiques ils sont davantage développés dans notre camp que dans le camp d'en face. Hein, surtout ceux qui veulent que le débat n'ait pas lieu en fait.
Et si je peux compléter également, il y a un aspect assez hallucinant, je trouve. J'utilise le mot hallucinant, c'est-à-dire aussi il y a ce fait. De vraiment s'intéresser en fait et de glorifier en fait. Alors ces personnages ne sont plus là, c'est-à-dire qu'en faisant tomber Federbe, on fait pas, enfin il y a pas d'appel au meurtre, il y a pas d'appel. Mais en revanche, les personnes qui sont vivantes, encore une fois, c'est-à-dire que nous sommes aussi la mémoire en fait. Nous sommes la mémoire et le miroir que les personnes racisées tendent continuellement à la République française. Et c'est comme si nous, on ne comptait pas en fait. Comme si ce débat, en fait, cet espace urbain figé dans tous les crimes de la Troisième République nous est imposé. Et nous, on est cette mémoire qui vient rappeler, vous ne pouvez pas en fait nous oublier. Et tant qu'on continuera finalement d'avoir ces inégalités de traitement, qu'on continuera à avoir ces asymétries dans l'acceptation de nos récits, ce n'est pas possible en fait d'envisager un avenir serein. Et d'ailleurs, quelque chose de très grave aussi dont parfois on nous accuse, c'est de vouloir commencer une guerre raciale. Non, on veut finir la guerre raciale qui a été débutée depuis le départ et qui a amené justement tous ces criminels, génocidaires, violeurs, pilleurs, en fait, à faire ce qu'ils ont fait. Et je tenais vraiment à dire aussi, à un moment, honorer aussi les personnes qui sont vivantes et qui luttent. Ça vient complètement invisibiliser ça aussi, cette polémique. Donc, avertissement, en fait, aux détracteurs, nous sommes l'histoire en action, nous sommes présents et nous ne lâcherons rien dans le fait, à un moment, d'obtenir ce droit fondamental à avoir un récit qui est partagé.
Et en fait, la confusion de l'histoire de la mémoire, c'est pas nous qui la mettons en place. En fait, c'est les discours des politiciens, notamment du président Macron. C'est les discours aussi d'intellectuels qui sont là pour soutenir et venir cautionner ce genre de discours. Nous, comme l'a dit Olivier, c'est de l'histoire en action. Et on s'oppose justement à ce devoir de mémoire, puisque c'est ça, en fait, ce qu'on fait, c'est rendre hommage à des personnages comme Federbe, comme Colbert, comme Lyautey, comme Gallieni. Leur rendre hommage sans rétablir la réalité de leurs actes, on nous oblige en quelque sorte à on subit ce devoir de mémoire en fait. Et nous, ce qu'on veut, c'est ne plus subir ça et le changer en fait. Et faire en sorte, pourquoi pas, de remplacer ces figures qui nous font violence par d'autres figures qui ont agi vraiment de manière antiraciste, décoloniale, et des figures, si possible, françaises, puisqu'on a tendance aussi à facilement, en France hexagonale, on a tendance aussi à choisir des figures américaines, comme si c'était plus simple aussi de choisir, à la fois c'est plus simple de cibler le racisme qu'il y a aux États-Unis en se dédommageant en France du racisme systémique qui existe, et à la fois aussi c'est plus facile d'aller chercher des figures comme Rosa Parks ou... des figures historiques qui ont marqué donc les mouvements aussi antiracistes aux États-Unis. Enfin, et on n'arrive pas du coup à aller chercher en France quoi nos propres figures qui ont marqué notre histoire, des figures noires et qui feraient du bien aussi. Si je pense aux jeunes, moi je pense beaucoup aux jeunes comme je suis dans l'éducation aussi, pour leur construction individuelle, leur construction identitaire, de voir des figures qu'ils leur rappellent qu'ils ne sont pas que des corps esclavagisés, puisque je pense notamment aux jeunes noirs qui, à l'école, étudient l'histoire des noirs, souvent sous l'angle de l'esclavage ou des famines en Afrique. Donc ça aussi, il faut savoir que ça a un impact sur la construction identitaire des enfants, des adolescents qui deviendront donc des adultes et des citoyens. Et voilà, nous, ce qu'on demande, c'est rétablir une vérité historique qui permette à tous les membres de cette société de se sentir à leur place, en fait, et d'avoir une place qui ne les réduisent pas justement à des objets, des corps fétichisés, des corps réduits à l'esclavage, des corps comparés, moi je pense en tant qu'asiatique, à des fourmis, hein, puisque c'est souvent ça aussi qu'on a en tête pour les personnes asiatiques, donc des personnes qui sont interchangeables, un nombre, une masse, voilà. Donc c'est, ça aussi c'est important, et c'est pour ça qu'il y a vraiment... FEDAP, c'est qu'une entrée sur toute une manière de penser notre société de manière décoloniale, en fait.
Et petit message à nos détracteurs, FEDAP n'est qu'un début. Il va falloir entamer une réflexion de fond, en fait, sur les rues, les parcs, les jardins. Je veux dire que ce soit à Lille, à Toulouse, à Bordeaux, que les villes vraiment se confrontent à leur passé, en fait, colonial dans leur ensemble. FEDAP n'est qu'un début.
Je synthétiserai la question en disant qui a-t-on envie de voir dans l'espace public, vous, votre collectif FEDERB doit tomber, donc c'est surtout pas FEDERB. Est-ce qu'on peut rappeler un petit peu qui participe à ce collectif, les exigences et puis les actions pour conclure ?
Nous, on ne répondra pas ici à qui on va mettre à la place de FEDERB, parce que, comme on l'a dit, c'est un débat démocratique qui doit avoir lieu, en fait. Donc nous, on s'échine à ce qu'il y ait l'espace nécessaire pour que ce débat ait lieu. Donc voilà, après, on ne va pas avoir la prétention de trancher à la place des Lillois et des Lilloises. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a très peu de figures non blanches qui sont honorées dans les noms de rue, mais encore moins statufiées, qu'il y a aussi très peu de femmes qui donnent leur nom à des noms de rue. Donc évidemment, il faut qu'on ait une volonté collective de compenser ce retard de représentation. Comme l'a dit Joey, on a une exigence de vérité mais aussi de dignité, en fait. Moi je pense qu'il y a quand même un truc là, je pense qu'on touche à la notion de dignité, en fait, à travers ce qu'on est en train de faire. Et donc les collectifs qui participent, c'est le collectif Survie, qui est une association qui existe depuis la fin des années 90, qui pense en fait les liens post-coloniaux entre la France, pardon, et ses anciennes colonies africaines. Donc Survie, en fait, sont sur les questions de la France-Afrique, sur comment ça se fait que l'armée française est encore présente en Afrique, par exemple, comment ça se fait que la France vienne protéger les dictateurs africains alors que les populations voudraient les dégager. Toutes ces questions, en fait, d'asymétrie qui sont encore présentes aujourd'hui, en fait, parce que il y a eu la mise en scène des indépendants, mais comme ça a été répété, c'est des indépendances incomplètes, ne serait-ce que d'un point de vue de la souveraineté monétaire. On rappelle que la plupart des... Enfin, toutes les économies africaines qui utilisent encore le franc CFA. On dit le franc a disparu, mais non, le franc n'a pas disparu. Et qu'en fait, aujourd'hui... alors, je connais pas le pourcentage exact, peut-être qu'Olivier le connaît ou Jouy le connaît, mais les anciennes colonies africaines doivent avoir une partie de leur budget national en dépôt à la Banque de France. Et c'est de l'argent qui travaille pour la France. Et donc, nous, Français, nous sommes collectivement bénéficiaires, en fait, parce qu'en fait, on fait travailler l'argent des Africains. Et ce faisant, on les empêche de développer une industrie, parce que quand même, il faut réfléchir un petit peu sur c'est quoi les moyens de l'indépendance. Bah, c'est l'industrie, hein, c'est l'industrie, c'est des services publics de qualité, c'est des infrastructures, et tout ça n'arrive toujours pas en Afrique, parce qu'en fait, parce qu'on essaye de le cacher, mais en fait, la colonialité est encore là, en fait. Donc il y a Survie qui est à l'initiative de cette campagne, le Front Uni des Immigrations et des Quartiers Populaires, donc le FUIQP. On a le collectif des Sénégalais contre la célébration de FEDERB, puisque, comme on l'a dit, il y a une statue de Louis FEDERB à Saint-Louis du Sénégal. Saint-Louis du Sénégal, qui est une ville jumelée avec Lille. C'est des choses qu'on a rappelées aux élus. Mais comment, si on veut élaborer un jumelage digne de ce nom sur un rapport d'égalité entre deux villes, il faudrait peut-être commencer à effacer les symboles de la domination de Lille sur Saint-Louis du Sénégal, en fait. Sinon, c'est, encore une fois, on est là dans un rapport inégal. Donc voilà, le collectif des coloniales déterminées, l'atelier d'histoire critique, le comité des sans-papiers 59 et le collectif Afrique. Et dernièrement, Sud Éducation, donc le premier syndicat à prendre position sur la question. Et c'est intéressant que ce soit un syndicat de l'enseignement, parce que Joey l'a très largement rappelé, il y a des questions de formation des futurs citoyens à travers ces enjeux-là, quoi.